Donc si vous regardez de près, vous avez un balcon ici, le Storban qui vient étendre un peu la galerie qui est en dessous, un oriel ici, ce qui ne touche pas le sol, c'est pas un bow window, un balcon qui surplombe, la véranda sur le côté où il y a l'entrée, et un balcon qui surplombe la véranda. Vous voyez un peu tous ces éléments. Ici, la Kerkouët est une villa anglo-normande. Si on regarde, on a une petite rotonde vitrée, un oriel qui se trouve à cette partie-là. Ensuite, il y a un petit balcon ici qui surplombe le bow window. Et là, il y a une petite loggia qui est prolongée par un auvent. Et vous avez une grande terrasse qui est ici. Plus la double porte-fenêtre qui est immense, qui ouvre une grande vision extérieure. Là, c'est une véranda vitrée dans une villa bauloise qui s'appelle Regina, que vous apercevez ici. Donc ça, c'est la véranda d'entrée. Et puis ensuite, vous avez la véranda vitrée de l'autre côté. Et ça, c'est une véranda, c'est la Villa Myriam à Pinchâteau. Donc dans ces espaces, vous pouvez avoir un maximum de vision, vous êtes protégé par la bâtie et vous pouvez donc d'une façon décontractée observer le paysage. Deux exemples de véranda. Une pergola dessinée par Date Senfis. Le père était architecte et venait souvent en villégiature à La Baule et le fils est venu donc il s'est installé par la suite. Dans les années 60, Pierre Bourinot, qui est un architecte assez important de Saint-Nazaire, qui va faire une arabesque et qui va donner. Il a un cube et avec une seule arabesque, il dessine une terrasse, un balcon et un auvent au-dessus. Voilà, je voulais montrer juste ça, cette villa, ce n'est pas particulier à La Baule, ce que je raconte. Quand vous regardez la villa du Coteau, appelée par la suite Strasburger à Deauville, vous avez toute cette collection de décorum qui ajoute à l'ambiance. Et la transition se fait par un auvent ici, un storban, ensuite une porte-fenêtre suffisamment grande. La tourelle en elle-même est un élément important. Et les jardinières rajoutent du décor qui fait partie de la transition à la mesure où on va vers le végétal. Sachant que cette villa est en fait peu villa à la mesure où la liaison avec le jardin ne se fait que par un petit escalier, j'étais assez surpris de voir qu'il n'y avait, avait pas un grand escalier qui menait au jardin. C'est surprenant. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est de voir qu'en fait, on a montré tout à l'heure les bâtiments extrêmement symétriques des institutions. On a montré les villas, les maisons urbaines symétriques, elles aussi. Ce qui est surprenant, c'est que dans la villa, on n'est plus dans la rue en train de regarder un bâtiment. On est dans le bâtiment et on regarde la nature. Donc, on n'est pas en train d'admirer l'œuvre d'un homme ou d'une société. On va admirer l'extérieur. Donc, c'est l'espace conditionnel qui permet les échappées visuelles vers le panorama de l'océan. C'est ça qui est important. Et la richesse d'une villa, ce n'est pas son décor en lui-même, c'est la qualité de la transition entre le bâti et le jardin. L'architecture institutionnelle, donc lui, par contre, est totalement symétrique. Tout ce que vous voyez, donc école, gare, hall, hôtel, mairie, police et poste, tout cela génère une symétrie tirée de l'axis mundi, le fameux axe du monde que l'on retrouve dans les cathédrales, mais qu'on ne retrouve pas évidemment dans les bâtiments. Mais cette inspiration est importante, c'est le jeu de la symétrie. Alors, si Viollet-le-Duc trouvait qu'il fallait avoir deux éléments égaux, enfin, la même fonction de part et d'autre d'un axe, on pouvait avoir une symétrie dans le bâtiment. Mais là, justement, le rationalisme de la villa fait qu'on peut avoir différents éléments. En général, vous avez le séjour prolongé par une véranda qui donne vers le jardin. Et sur le côté, vous avez la salle à manger qui est augmentée d'un bow window, sur lequel vous avez un balcon qui donne dans la chambre des parents à l'étage. Voilà un peu, grosso modo, l'ambiance. Et on est sur on n'est pas dans la symétrie. Si vous rajoutez une aile à un pignon principal d'une villa, vous avez un château. Voilà, alors on va un peu vite ici. François Gayot est un architecte qui vient de Lyon, qui a construit l'hôtel Royal ou le Royal Hôtel sur la place Bellecour. Donc demandé par Hippolyte Palus, ce bâtiment est dessiné pour recevoir les enfants riches tuberculeux. Mais Palus se prend de bec avec. Gayot, oui, les deux. Gayot et Palus se prennent de bec et s'insultent. Gayot est viré du chantier et le bâtiment est terminé par un maître d'œuvre. Puis par la suite, en 22, il est agrandi. Et Lafond n'interviendra pas sur ce bâtiment, ce qui est assez surprenant parce que c'est quand même le domaine de Lafond, c'est le lotissement MK qui a été créé juste avant, où il a fait la villa Kermoris, qui est ce qu'on appelait le château par la suite, qui est devenu l'hôtel de ville. La plupart des villas sur le front de mer sont de Lafond, ainsi que juste à côté d'ailleurs de ce bâtiment. Et là, c'est un architecte lyonnais-parisien qui va intervenir. Et sur lequel il va s'amuser échelonner les styles les uns sur les autres, différents styles architecturaux, les ordres architecturaux. Alors là, ce qui est amusant, c'est ce bâtiment donc, qui est construit par un élève de Lafond, un couillot de Lafond, Ferdinand Ménard. Donc Ferdinand Ménard, jusqu'en 14, travaille avec Émile Lebeau. Ils font une assez bonne équipe. Ferdinand Ménard était le chef d'agence de Lafond. Et François André, lorsqu'il arrive à La Baule en 1920, qui prend la concession du casino, va demander à Ménard, qui est l'architecte principal, qui va d'ailleurs refaire le casino en 24-26, il lui demande de faire cet hôtel. Donc cet hôtel est fait en deux parties. En 1926, vous voyez donc la grande partie, vous voyez ici, top, jusque-là, c'est fait en 7 mois. Un bâtiment qui est assez important, et on y rajoute une aile en 27, donc on appelait ça l'hôtel 300 chambres, 300 salles de bain, 300 francs. C'était le palace. Ce qui est amusant de noter, c'est que vous avez un bâtiment décoré de manière néoclassique ici, avec des bains en plein cintre et un pariage de pierre avec des joints en creux. Et les trois étages. Où est ma souris ? Bon. J'ai pas de ma souris. Voilà, les trois étages ici sont tout à fait basiques, avec une jardinière systématique à la fenêtre. Et les deux derniers étages sont faits de jeux de pans de bois et de, à l'époque on appelait ça un jeu de pignonnés, des tout petits pignons à droite à gauche, tac, 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 qui rythment un peu la façade. Voilà, donc j'ai trouvé en Angleterre de genre de bâtiments. Vous aviez un néoclassique en partie basse et puis une ambiance XY en partie haute à Londres. Donc c'est un peu cette ambiance-là qu'a repris ce fameux Ferdinand Ménard. C'est pour ça. Ah oui, c'est vrai, à ma gauche, ça marche. Les deux gares sont symétriques, comme je vous le disais tout à l'heure. Qui sont en fait des châteaux à travers lesquels le voyageur va se payer son billet de train et va être propriétaire pour un temps, comme dans un hôtel, du produit qu'il achète. C'est-à-dire que vous achetez un produit qui s'appelle une place de train, vous achetez un produit qui s'appelle une chambre, et vous êtes propriétaire de cet achat pour une durée X. Bon, une chambre, c'est une nuitée, deux nuitées, 15 nuitées, et le chemin de fer, c'est le temps du trajet. Et donc on est dans une ambiance d'importance du bâti, et il n'est pas question de faire de la dissymétrie, pas question de faire quelque chose qui est en relation avec la nature. On est au-delà de la nature, on a bâti sur la nature. Voilà, alors l'architecture individuelle est implantée, quel que soit son... C'est pas strictement balnéaire, quand je parlais de la Baule, c'était balnéaire. Donc on est soit à la montagne, soit à la campagne, périphérie urbaine, les tropiques. C'est ce qui était assez surprenant, c'est de voir en fait qu'on avait tous ces styles un peu partout. Je montre ça, donc c'est une villa qui se trouve à Port of Spain, dans la Trinidad. On appelle ça la villa du français. Elle est symétrique, mais elle est symétrique par ce jeu de kiosques à l'avant et de petits belvédères sur le côté. Voilà, une case de Maurice en bas et des Saintes en haut. Une des maisons de Franklin Wright à Oak Park, Chicago, vous voyez, l'entrée n'est pas du tout dans l'axe, se trouve sur le côté, et tout le jeu de fenêtres ici crée une immense verrière qui permet la vision à l'extérieur, avec un auvent très protecteur à la japonaise. Voilà. De même, Oscar Niemeyer a fait une villa totalement transparente, sa propre villa, à Rio de Janeiro. On a une vision sur la mer qui est assez extraordinaire. Et j'ai trouvé à Lille la dernière villa de Richard Notra, qui était un élève de Frank Lloyd Wright, qui, d'influence japonaise aussi, va créer cette villa totalement horizontale, avec des éléments de transition assez importants. Voilà, une dernière surprenante, c'est dans le Fort Alberg, en Autriche. Elle fait face au lac de Constance, c'est une villa très contemporaine, mais il y a tous les espaces transitionnels qui permettent justement d'habiter à l'extérieur, tout en étant dans un cube contemporain. Et donc la question est de savoir si c'est balnéaire ou si c'est montagnard. Puisque juste à côté, vous n'avez que des chalets dits montagnards. Sachant que les architectes d'Autriche, l'ordre des architectes a attaqué les jeunes architectes qui avaient lancé cette idée de bâtiment cubique en bois. Et l'ordre des architectes a perdu dans l'histoire parce qu'ils avaient le droit eux aussi à faire leur style. La défense du patrimoine est quand même assez importante. Voilà, donc l'intégration au site est plus problème de l'espace transitionnel que du style architectural en lui-même. Et donc tous ces espaces transitionnels qui permettent d'échapper relient l'homme à la nature, c'est ce qui à mon sens est très important, ce que je ne vois pas du tout en mode urbain. Alors juste pour terminer, la construction du territoire, vous avez donc le grand hôtel qui est sur le côté ici, qui donne le repère, vous avez les dunes des Skoulak, sur lesquelles a été construit la ligne de chemin de fer au tout début, avant que le lotissement de la Baule-les-Pins soit construit, et la plage est étendue et assez peu peuplée. Bon. En été. Voilà un peu la construction du territoire. Donc j'appelle ça frit, 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 frit. C'est une phrase de... J'ai accumulé des éléments de Abraham Moll pour créer ce titre. Abraham Moll est un sociologue assez important en France, peu connu en France, mais quand même très traduit dans le monde, qui va définir que avec de l'argent, vous pouvez aménager un territoire. Puis ensuite, une fois que ce territoire est neuf, il faut faire venir du monde. Donc il y a une certaine frime qui va apparaître. Une fois cette frime apparaît, eh bien, il va falloir que les gens puissent se vêtir, donc on va amener la fripe automatiquement, puisqu'il va falloir vendre des fringues à ces frimeurs. Et il termine par la consommation de masse, le tourisme de masse, qui est la frite, le burger et la crêpe. Voilà. Et c'est un fait qu'à l'époque, on appelait ça la plus belle plage d'Europe. Après les années 60, le slogan a disparu. Voilà, je vais vous relater ça d'une manière assez particulière sur un site internet qui s'appelle panorama-labou.com, où j'ai ajouté 1960, 1990 et 2005, 45 ans de consommation du territoire sur 15 km de côte, c'est-à-dire que ça part de Chemoulin jusqu'à Pinjateau. Donc si c'était en wifi, on pourrait voir le show, je ne vais pas vous embêter plus avant. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le travail de la Baule, sachant que notre camarade Lafont a été l'instigateur de cette station balnéaire et qu'il a amené les gens, la société nantaise, en grande partie celle du Clou, qu'on retrouve dans ces constructions. Et il y avait aussi François Bougouin, qui est un architecte très important de Nantes, qui va s'occuper surtout de la plage Benoît et de la partie Pinchâteau. Mais tout le quartier, je dirais, de l'hôtel Royal actuel jusqu'à Pornichet et un petit peu Sainte-Marguerite, c'était Georges Lafont et ses gourguignons. Sachant que la station balnéaire de Pornichet est donc créée en 1900 en prenant Pornichet-les-Pins à la commune d'Escoublac et la partie Sainte-Marguerite, vieux Pornichet, bonne source, à Saint-Nazaire. C'est Lafont qui a été à l'origine un petit peu de ce document qui en 1895 avait dessiné sur le parc Aguemont, il avait dessiné justement l'ambiance. Et c'est Francis Leray qui a fait le bâtiment, l'école des filles et des garçons, qui se trouve sur la place du marché. Donc Lafont est aussi à l'origine de la création de la station de Pornichet. Voilà ce que j'avais à vous dire, c'était un peu long, c'était architectural, un petit peu philosophique et psychologique. L'idée, c'est ce lien avec la nature qu'on a un peu oublié dans l'urbain, dans les maisons dans lesquelles on habite et pour lesquelles on se coupe de la société. Voilà. Je vais maintenant vous présenter quelques éléments sur le Clou. C'est le plus court. Ça marche comment ton truc là? Ah, c'est bon. Voilà. Alors, j'ai marqué Théophile, je me suis trompé, c'est Théodore. Vous pouvez m'excuser, dans les différents prénoms de fameux Georges. Donc, c'est quelques éléments que je possède suite à mes recherches à droite à gauche. Donc, le fameux Georges était un architecte croqué par Mich sur la gauche. Et là, il se mettait en scène lui-même dans ses japoniseries, son décor de l'impasse Rosière d'Artois, le siège du Clou, était un décor tout à fait néoclassique, mais sur lequel il y avait beaucoup de japoniseries, comme on appelle ça à l'époque. Il aimait assez le côté japonais. Bon. Ouais, c'est bon. Donc je montrais sur les photos que Gilles a montrées aussi. L'idée de la symétrie est très importante. Et dans cette architecture, tant l'ivette, avec le jeu de la transition vers l'extérieur, toute la galerie est une transition vers la cour intérieure. Ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, c'est une cour intérieure. Ce n'est pas une nature, c'est un petit paysage à l'échelle d'un bâtiment. Donc on est en transition vers l'extérieur et j'ai été assez surpris par cette photo que j'ai trouvée sur le site de l'Yvette. C'est les cartes postales que vous avez récupérées, je suppose. Avec le jeu de câble électrique, il faut bien montrer que on est contemporain, mais le jeu architectural et l'effet visuel est assez superbe. Voilà, Pimbron, bâtiment totalement symétrique, donc l'œuvre de Georges Lafont, Chauvet, son élève. Donc, Chauvet était en fait le fils de Paul Chauvet, qui était un membre du Clou, qui était notaire, je crois, ou... était le censeur d'ailleurs le censeur du Clou. Donc Paul Chauvet avait trouvé Georges Lafont assis dans sa chapelle. Georges Lafont était tout heureux d'avoir construit ce bâtiment et surtout cette chapelle en même temps. Donc, voici la chapelle à l'extérieur, document paru dans la construction moderne. Le plan lui-même, donc vous voyez cet axe de symétrie extrêmement important avec en face à mer toute la chapelle avec l'entrée du bâtiment lui-même puis la chapelle par derrière. Donc le jeu de la symétrie est vraiment très surprenant. On a le droit à un double carré ici, enfin presque un double carré. Voilà, l'hospice Le Jeune, tout pareil, symétrique, incorporé sur l'œil. Et la chapelle du Lourboutreau, le bâtiment n'existe plus, tout a été transformé, modernisé, mais la chapelle existe toujours. Donc radical, enfin républicain, mais quand même porté sur la religion. Il était... Le fait que sa villa fut un temps été nommée symbole en deux mots, au lieu de symbole, le symbole, C'est assez surprenant. Ce qui est amusant à noter, donc, dans cet lotissement, donc on n'est pas loin de chez lui, regardant vers la mer, c'est une allée qui est entièrement végétalisée, comme je le montrais tout à l'heure pour l'avenue de ses maisons. Donc on est dans une. On est sous une forêt végétale, bien sûr. Dans le quartier Nkar, les parcelles étaient tellement petites que beaucoup d'arbres ont été déracinés, coupés, ce qui a gêné un peu l'habitation par la suite. Mais ce qui est important de noter, c'est cette importance de la végétation. Donc le plan désigné par la fond que je vous ai montré tout à l'heure, la nuit percée, je disais que sa ville-là était ici, et la photo que j'ai faite est à peu près ici. Vous voyez, le plein sud, on regarde la mer. Et ce qui est important à La Baule, c'est que quand vous regardez la mer, vous avez le soleil en pleine figure. C'est ça qui importe quand vous êtes sur la Manche. On appelle ça Côte d'Émeraude parce que le soleil plonge dans l'eau et l'eau est verte. Les bâtiments qu'il a créés. Alors tout en haut, vous avez un petit panoramique des années 1890 à peine, où on voit l'avenue de Gaulle, ce qu'on appelle l'avenue de Gaulle, qui s'appelait à l'époque l'avenue de la Chapelle, au tout début l'avenue de la Gare. Et puis là, c'est le fameux Manuel, que chacun connaît, le confiseur, qui est maintenant un grand immeuble. Donc toute cette partie-là a été bâtie d'immeubles assez importants pour marquer l'entrée de ville, comme une entrée de ville. Donc on a une projection du système de construction urbaine qui va dépasser l'échelle d'un arbre, donc qui va toiser la canopée, comme je disais tout à l'heure, et qui va se plaquer en face mer pour densifier le territoire. L'important, c'est cette notion de densification du territoire n'est pas du tout de mise dans le balnéaire. On est en rapport avec la végétation, on a un bâtiment qui fait R+1, R+2 grand maximum, et qui face mer, bien sûr, un jeu de belvédère. Et les immeubles urbains vont se ramener sur le front de mer et vont faire barrage. C'est un indice de tsunami assez sympathique, un paravent en fait. J'ai habité 10 ans juste derrière un immeuble, effectivement, qui avait du vent. On entendait les balcons siffler, mais on n'avait pas de vent. Voilà. Donc Zaneto qui a été construit avec Chauvet, Kervari qui l'a fait tout seul, qui en breton signifie chez Marie, Kerloti, petite villa, alors c'est une maison, vous voyez, on a une petite dissymétrie avec ce bout de pignon ici, et puis la véranda ici, le balcon au-dessus, etc., des balcons couverts, tout un habillage. Kerlouzic qui est pour le docteur Thiroulois, un important médecin parisien, qu'il va faire avec Chauvet, de même la villa Pax, ce sont des Nantais qui habitent là-dedans. J'ai trouvé dans les archives de Vachon, un architecte nazérien, qui a repris l'agence Vial, et en fait il a pris ça dans les documents Vial. Vial étant un élève de Lafont. Donc ça c'est pour le tir au bois, c'était une véranda qui n'a pas été faite. Et ensuite vous avez la façade de la Villa Pax pour Abrikossov. Voilà, donc maintenant appartient à les Nantais. Ce qui est amusant, c'est de noter cette espèce de cabinet ici, et puis un petit oriel aussi là, cabinet de toilette. Et là, il y a tous les chapiteaux du porche d'entrée sont des fruits de mer. Voilà, des petites villas qu'il a fait dans l'avenue, enfin pas loin de l'avenue Pierre Percé, dans le lotissement Incar. Vous voyez, des rez-de-chaussée simplement, le balcon, les combles ne sont pas du tout aménagés. Et ce qui est amusant, c'est de noter, c'est qu'elle s'appelle l'une des agents, l'autre est Bruyère, et pratiquement tout le long de l'avenue Pierre Percé, vous avez des noms de villas qui portent des noms de végétation. Sa villa, lui, bon, tout est fermé, c'est pas drôle. Plus drôle. Mais ce qui est amusant, oui, c'est ça quoi. Ici, donc, vous avez un petit auvent qui protège le nom symbole, et vous avez une espèce de plaque ici qui est marquée Georges Lafont, fondateur de la station, etc. Donc, scientifique quand même. Sachant que ce bâtiment, la vision que vous avez de ce bâtiment était la vision que vous aviez quand vous descendiez du train sur la plateforme de chemin de fer. C'était le premier bâtiment que vous voyez. Donc, l'idée, c'était de faire de cette manière. Ça, c'était une publicité réelle. Dans le même esprit médiéval dont on parlait tout à l'heure, c'est le prieuré Saint-Georges là-bas sur mer, entre l'église et la mer. Vous voyez un peu la véranda toute peinte, en anglais on appelle ça gingerbread houses, les maisons pain d'épices, tellement elles sont colorées. Donc c'est une maison qui a été restaurée de manière. C'est difficile d'entretenir une telle maison qui est assez vaste. Donc le château de Briol, le petit pavillon. Et en fait, les serfs avaient demandé à Lafont de créer. Il y avait une pièce d'eau, et de cette pièce d'eau, donc, il avait monté en hauteur, et au sous-sol de ce pavillon, il y avait une petite usine électrique qui apporte l'électricité au château. Voilà un peu l'innovation du personnage. Notez aussi la transparence. Enfin, cette baie plein cintre ici était une loggia, et lors de la restauration, parce que le pavillon est devenu maintenant l'habitation d'essai, cette loggia a été vitrée par la suite. Bon, il y a une vue fantastique sur le plan d'eau. Et donc, dans ce fameux cintre, notez bien, quand on voit l'architecture néoclassique, on a une architecture de percements verticaux. Là, on a des baies qui s'ouvrent à l'horizontale un maximum. Alors là, il joue sur le jeu de l'appareillage en brique. Il aurait pu mettre des linteaux métalliques, non, il joue sur l'appareillage en brique, sachant qu'en bord de mer, c'est moins drôle, mais le métal. Ce que j'appelle ça, on a des doubles portes-fenêtres. C'est-à-dire que vous avez une porte-fenêtre qui va ouvrir à l'intérieur, et ensuite, vous avez deux bâtis sur le côté. Voilà, la véranda principale de Pimbron. Donc les malades avaient pour... la fonction de cette véranda était en fait d'exposer les malades à la fois au soleil, on est plein sud, à la fois au vent salé, qui donc les soignait de la tuberculose. Une affiche du clou, notre thème un petit peu final, c'est qu'en fait, dans le clou, Georges Lafont va rassembler énormément de personnalités nantaises, tant en politique qu'administrative, que... industriel. Voilà, ça, c'est une affiche de Ménard, son élève préféré, je dirais, un petit peu, parce que Ménard a récupéré les archives Lafont. Ces archives ont été versées à... C'est Philippe Louis, un architecte des années 30-60, qui a récupéré le fonds. Et la veuve Louis a tout brûlé quand l'architecte est mort, quand ils ont déménagé de la maison. Je n'ai pas pu le récupérer. Une photo d'une séance du clou, un document qui appartient au fond Lemay, je crois. Je ne sais pas si c'était ça. Enfin, j'ai pu photographier ce document. Je suis allé dans l'impasse Rosière d'Artois, c'est actuellement le poisson qui habite dedans. Ce qui est à noter, c'est que De Broca, qui était le peintre, un peintre assez connu, qui partait tant au Maroc qu'au Croisic, avait racheté l'impasse de la Rosière. Donc c'est De Broca qui a succédé à Lafont en 1924 dans le bâtiment. Sachant qu'à côté, donc, vous avez l'essai qui avait fait Madame Say, quand je suis passé la voir là, pour photographier son pavillon, m'a dit qu'il y avait le tonton Say, qui est assez connu pour ses loufoqueries, avec le fameux kiosque mauresque qui était à côté de la Rosière d'Artois. Voilà donc les affiches de Lafont. Alors, je me suis toujours posé la question qu'était le F qui apparaissait à côté du clou. D'aucuns savent peut-être, non, c'est peut-être fondateur, Lafont fondateur du clou. Que d'ailleurs, c'était sur le tampon, c'était marqué fondé par Lafont. Voilà, donc ça, c'est la cheminée et le siège qu'on voit sur la photo de tout à l'heure. Et aussi le petit journal du clou, donc vous avez tout un laïus, sachant que le clou, c'est pas de politique, pas de religion, et tout le monde participe. Il fallait absolument amener quelque chose de assez loufoque et de faire rire, l'humour, toujours de l'humour. Les Nantais donc, sont en accouru à cette association, c'est pas vraiment un club. Et donc, au bout d'un moment, les cloutiers se reconnaissaient avec un petit clou en argent dit Perrault Charmentier dans son livre. Donc, il y avait un trop-plein presque de personnages qui voulaient rentrer dans le clou, qui ne pouvaient pas vraiment accueillir grand monde, vu l'étroitesse de l'atelier de la fin. Voilà, donc ça, c'est le vitrail dans l'atelier. Et les fameuses affiches, les affichettes, donc les petits placards que faisait en guise de faire part Georges Lafont. Là, vous le voyez mis en scène, c'est son personnage qui est ici. Voilà. Et derrière, vous avez le Paul Chauvet. Et par contre, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le clou était donc un club d'hommes, ou une association d'hommes, mais les dames étaient aussi bienvenues, donc ils faisaient des clous des dames parfois, pour ne pas les frustrer trop. Voilà, en cesse des dames, mesdames, vous accourez en foule, et c'est là notre bonheur. Nos programmes vous ont de tout temps alléché. Dardant coquelicot, jamais le moissonneur, au plus belle moisson, ne fit-elle joncher. Comme au chant de l'airain, le gai carillonneur, dans le clocher sonore, éveille les nichés. Le clou, de propos fous, extravagants sonneurs, provoque vos gaietés et vos mines fâchées. Faudrait-il que pour vous, nous soyons attristants? Bah, le mot est un peu leste et est une friandise. Et vous aimez, voilà, et vous aimez assez parce qu'on vous le dise. D'ailleurs, les vieux rieurs sont tous impénitents. Si nous nous oublions à quelques gaillardises, cela nous est permis, car nous avons 100 ans. Et en fait, le 100 ans, il n'avait que 11 ans. Voilà, donc la loufoquerie était de mise à chaque fois qu'il y avait une séance du clou, et qu'ils avaient décidé, au bout de 11 ans, de faire un centenaire. Voilà, donc le personnage, en lui-même, mis en scène, avec ses clous sur la tête. Pourquoi cette tenue africaine? Je ne sais pas trop, 20e année, donc on est dans les années 1800-1910. Et là, un petit clin d'œil, il y a une association qui s'est formée à Nantes, c'est les Transbordés. Vous avez ici l'inauguration du pont transbordeur, fêté par Lafont, 9 octobre 1903. Voilà, j'en termine là.